Radio Albigès vous propose des échos de la foire Biocibel 2021, une foire organisée par l'association Nature et Progrès de Tarn. Des conférences à retrouver aussi en podcast en passant par notre site radioalbigès.com. Tout de suite, conférence de Jérôme Goust, l'élevage paysan et le dérèglement climatique. Vous entendrez aussi en fin d'émission les échanges avec le public, en vous souhaitant une bonne écoute.
Jérôme Goust m'a demandé de le présenter et ça m'embarrasse un petit peu parce qu'il a quand même un CV assez riche. Donc si je commence à le présenter, je vais oublier plein de choses. J'ai juste envie de dire qu'il est engagé dans l'agroécologie depuis, si je dis plus de 40 ans, je ne me trompe pas.
Hein. Presque 50.
Presque 50, voilà. On ne compte plus les ouvrages qu'il a rédigés, les articles qu'il a écrits dans les journaux d'agroécologie, de jardin potager. Je me souviens de l'époque où j'étais abonné aux 4 saisons du jardinage. Je voyais un nom apparaître assez régulièrement, c'était Jérôme Goust. Et depuis que je suis arrivé dans le Tarn, j'ai fait sa connaissance, voilà. Donc je vais lui laisser la parole, parce que c'est lui qui fait la conférence, n'est-ce pas ? Par vigilance, nous vous demandons de respecter quelques consignes, en particulier celle d'avoir le masque à portée de main, sinon à portée de bouche, car nous vivons une époque particulière, vous le savez bien. Je passe la parole à Jérôme.
Voilà, donc bienvenue dans la première grande foire masquée, qui j'espère pour le dernier terme sera aussi la dernière dans ces conditions, mais qu'on est content d'avoir réalisé. Et donc l'élevage paysan et le dérèglement climatique, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'attaques sur l'élevage, sur les éleveurs, disant que l'élevage est une des principales causes du réchauffement climatique et dans le prolongement, une propagande visant carrément à interdire l'élevage, hein. Voire à interdire tout produit animal, qu'il soit alimentaire ou autre, ça c'est le véganisme. Or, est vrai que l'élevage joue un rôle par rapport au dérèglement climatique, par rapport au réchauffement, mais c'est effectivement essentiellement l'élevage industriel qui en est cause. L'agro-industrie qui produit de la sale viande, de la fausse viande, de la viande de synthèse, ou de la viande hors sol à partir de tas d'autres produits qui détruit la biodiversité, qui produit un maximum de gaz à effet de serre. Mais si l'élevage paysan produit des gaz à effet de serre, il le compense largement, on va le voir, et qui limite la casse climatique par le recyclage des déchets, le piégeage du CO2, par le maintien de la biodiversité. Et donc, l'intérêt de ces accusations sur l'élevage, c'est qu'effectivement, elle les oblige vraiment à sortir du concept de produits animaux, d'exploitation agricole, pour reprendre en compte notre rapport aux animaux domestiques dans un lien à l'élevage et non pas à l'exploitation, dans un lien à l'alimentation et non pas dans un lien à des productions industrielles. Effectivement, suivant une étude de la FAO, l'élevage serait responsable de 18% des émissions de gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, quels sont-ils ? Celui pour lequel l'élevage est principalement accusé, c'est le méthane. Le méthane qui, effectivement, est en particulier de manière importante produit par les ruminants, hein, au cours de leur digestion, hein, et au cours aussi de la fermentation des déchets animaux, et en particulier des déchets animaux de type lisier. Et c'est effectivement celui qui pose le plus de problèmes, car c'est celui, car il a un important pouvoir de réchauffement, hein, mais sa nuisance dure moins longtemps, une dizaine d'années, alors que le CO2 met beaucoup plus de temps à baisser. Hein. Effectivement, 34% des émissions planétaires de méthane concernent l'agriculture, l'élevage, mais aussi la culture du riz, hein, et les déchets, hein, et également une partie importante des zones inondées, des marécages, des lacs. Et l'autre source étant l'utilisation des combustibles fossiles pour l'agriculture ou pour tous les process industriels. Deuxième, le protoxyde d'azote, qui est principalement issu de la perte d'azote des effluents d'élevage et de l'épandage des engrais, en particulier sur des sols nus, ce qui est plus fréquent en grande culture et en élevage intensif. Et enfin, le CO2. Et effectivement, si le CO2, c'est le gaz à effet de serre dont on parle, le principal moyen pour absorber le CO2, c'est le sol. Le sol et les plantes représentent des pièges et des puits de carbone extraordinaires. Et alors que les prairies, les arbres sont d'importants lieux pour piéger le carbone, des sols limoneux, par exemple, les sols de grande culture dans la Beauce, eux, non seulement ne retiennent plus grand-chose, mais ont vu leur teneur en carbone baisser de 60% en 50 ans. Donc, si on retient ce chiffre de 18% de gaz à effet de serre lié à l'élevage, je veux dire, donné par la FAO, en fait, c'est quoi? C'est 18%, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre qui ont trait à l'élevage. Donc, sur la totalité de la chaîne, depuis la production des aliments pour les animaux, les aliments importés, transportés, les aliments produits en intensif, le maïs d'ensilage, le soja, et les gaz marginaux produits aussi par les prairies, les productions d'engrais, le transport des aliments et ces trois principaux postes de production des aliments pour l'élevage, de production d'engrais, de phytosanitaires et de transport, représente à eux seuls 45% des gaz à effet de serre qui sont imputés à l'élevage et qui sont donc concentrés sur un certain type d'élevage. Les gaz à effet de serre imputés à l'élevage, c'est aussi donc, on a vu, le méthane, le gaz digestif des ruminants et d'éjection, l'utilisation d'énergie sur les lieux d'élevage, la transformation des produits alimentaires, le transport, l'abattage, le stockage, la transformation, l'élaboration de produits à base d'élevage qui sont complexes et demandent d'autant plus d'énergie, le conditionnement, les emballages. Et donc ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi tout ce qui concerne la chaîne alimentaire, le chauffage, le refroidissement, la ventilation, les équipements pour les unités de production, l'utilisation des machines. Tout ça consomme donc des énergies fossiles. Alors naturellement, il y a au passage une énergie qu'on refuse de considérer comme fossile parce qu'elle n'émet pas des gaz à effet de serre, c'est l'énergie nucléaire. Je veux dire, l'uranium est quand même un produit minier. Et sur chacun de ces postes, on voit bien l'extrême différence qu'il y a entre un élevage paysan qui produit essentiellement avec les ressources de la ferme, les ressources locales, et une exploitation qui a recours à produire une infinité de matières, de processus extérieurs qui consomment de l'énergie, etc. Et en fait, l'élevage paysan, puisque maintenant, à Nature et Progrès en particulier, on se bat pour une agriculture bio et paysanne. On a été obligé, au fil des années, de rajouter paysanne, parce que le développement de l'agriculture biologique se fait à l'heure actuelle majoritairement sur un modèle productiviste qui n'est pas paysan. Alors l'agriculture paysanne, c'est quoi ? L'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui produit ici avec les produits qui viennent d'ici ou qui au maximum proviennent du même secteur. Et au contraire, de l'élevage intensif, des exploitations d'élevage qui, elles, pour qui l'animal est devenu finalement une machine sur pattes, où on enfourne de la matière première aliment d'élevage et on en ressort un produit alimentaire. Donc, et où le paysan n'est plus, ou l'exploitant, pardon, n'est plus un paysan, mais un travailleur à façon qui est inclus. On dit souvent, et on accuse souvent principalement l'élevage des ruminants à cause du méthane, et on absout assez facilement les élevages, par exemple, de volailles et de porcs, c'est-à-dire d'animaux monogastriques, en disant, au moins, ils ne nous balancent pas du méthane. OK. Sauf que à l'heure actuelle, et en particulier dans nos pays avancés, ces élevages de porcs et de volailles sont à peut-être 90% les plus industriels qui soient. Et les plus grands consommateurs d'aliments importés, par exemple, au hasard du soja brésilien transgénique, je dis ça comme ça, tout à fait au hasard, ou les animaux sont enfermés, et même si les publicités des volailles, je ne te ferai pas de délation, on dommage de tel ou tel endroit, sont certifiées élevées en plein air, bon, elles prennent l'air. C'est indubitable, elles prennent l'air. De là à dire qu'elles sont élevées en plein air, je n'irai pas jusque-là, je m'en garderai. Donc ces élevages sont assez loin d'avoir cette virginité environnementale qu'on veut leur établir à ce titre-là. Sans compter que ces élevages industriels au niveau pollution, on leur doit quand même en Bretagne les algues vertes, par exemple, et beaucoup d'effets négatifs sur les écosystèmes. Et par exemple, dans l'élevage, dans la production d'un kilo de poulet, leur alimentation est responsable de 75% des dégâts environnementaux qu'ils font. De sorte que, donc, il faut effectivement sortir ce qui est hélas la majeure partie des élevages dans notre pays et dans nos pays. Et bien centré par rapport à l'élevage paysan. Bien souvent dans les pays en développement, les élevages extensifs sont basés sur la déforestation. Donc tout l'avantage dans un certain nombre de pays en développement de l'élevage extensif, par rapport à ces questions environnementales est perdu parce que ils sont passés sur la déforestation. Et d'autre part, la déforestation, par exemple, au Brésil, 65% de la destruction de la forêt amazonienne est liée à des productions destinées à l'élevage. Donc, par rapport à l'élevage, il faut recentrer sur une notion qui est essentielle et qui doit faire la différence entre un élevage biologique, écologique, paysan, et un élevage industriel, c'est la notion de lien au sol. Lien au sol qui, par exemple, dans le cahier des charges de Nature et Progrès, dans les cahiers des charges élevage de Nature et Progrès, est vraiment au centre des conditions et des règles édictées. Pour les élevages bio, ça signifie que tous les animaux ont accès à des parcours extérieurs, pas seulement pour prendre l'herbe, pour prendre l'air entre deux bouchées de soja transgénique, mais que les ruminants pâturent dès que les conditions le permettent. Et c'est vrai que le réchauffement et les conditions climatiques font que les élevages, la pâture dure beaucoup plus longtemps dans l'année, vu qu'il y a moins d'hiver, et qu'une partie importante, voire totale, de l'alimentation du troupeau est produite sur la ferme ou dans la région, dans ma zone, comme dit la publicité du conseiller régional. Et le lien au sol, c'est aussi que tout l'épandage des fumiers, etc., se fait localement et en proportion des surfaces disponibles. Donc ça, c'est extrêmement important. Et le principal lien au sol de l'élevage, c'est la consommation d'herbes par les animaux. L'herbe, c'est vraiment l'élevage jusqu'à il y a quelques décennies à peine. Mais l'élevage, c'était d'abord la consommation d'herbes sur pied ou sous forme de foin, qui correspond pour un élevage paysan à au moins 60% de la ration, voire 80%. Et la production d'herbes, elle couvre en France 13 millions d'hectares. 3 millions d'hectares de prairies cultivées, 10 millions d'hectares de prairies naturelles. Et d'autre part, en termes écologiques, l'élevage et le pâturage permet d'entretenir des surfaces difficiles, non cultivables par ailleurs. Et ça, par contre, bon, sous forme de pâture, mais sous forme de parcours aussi. Ces surfaces ne sont pas labourées, elles sont fertilisées par les troupeaux. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on en parlait ce matin dans le cortège officiel par rapport au problème foncier des agriculteurs, par rapport aux SAFER, c'est qu'effectivement, dans l'accès des gens qui veulent s'installer au foncier, il y a toujours une pression à l'agrandissement. Mais ce qui fait que vous avez des secteurs entiers où les terres inintéressantes sont abandonnées, les terres intéressantes sont reprises souvent avec agrandissement des exploitations, au détriment du maintien et non pas d'exploitation, mais de fermes. Et moi, je pense à la zone de la vallée du Vior, dans le Tarn, où je suis arrivé il y a 48 ans et où je suis resté 20 ans. Et c'est vrai que c'est assez affolant de voir toutes les zones qui sont vraiment retournées à l'état sauvage et que ne sont restées, avec un nombre de plus en plus limité de paysans, que des zones limitées. D'autre part, l'herbe, c'est aussi ce qui permet de maintenir la qualité des eaux. Et donc, quand on regarde le bilan écologie des élevages, déjà, tout le discours officiel médiatique nous parle de réchauffement climatique. Bon, moi, personnellement, je préfère utiliser l'expression de dérèglement climatique, qui ne se limite pas au réchauffement. Il inclut toutes les formes de changement climatique, de vent, d'augmentation des périodes de vent, de froid, de chaud, d'inondation, de sécheresse. Et donc, par rapport à ça, le bilan écologique des élevages, on peut déjà le considérer sous l'aspect de la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Parce que de toute façon, et ça c'est bien dans la logique manichéenne de notre époque et de notre société, il ne s'agit pas de supprimer les gaz à effet de serre. Si on supprime les gaz à effet de serre, on supprime la vie. Il s'agit de maintenir un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les capacités du monde vivant à les compenser, à les équilibrer. Dans cette compensation des gaz à effet de serre, l'élevage est un des très rares, on pourrait presque dire le seul secteur économique qui est capable de compenser une partie importante de ses émissions, 30%, en stockant du carbone dans les sols des prairies et des haies, des bosquets, des fourrés. Et quand on dit 30%, et quand les chiffres officiels disent que l'élevage compense 30%, c'est toute catégorie d'élevage confondue. Donc on peut considérer, c'est quand on revient à l'échelle d'une ferme d'élevage paysan, c'est beaucoup plus que 30%. Un hectare de prairie permanente stocke 760 kg de CO2 par an. Et les puits de carbone que représentent les 10 millions d'hectares de prairies permanentes compensent en France un tiers des émissions de carbone, auxquelles il faut ajouter les arbres, ce qu'on appelle les arbres hors forêt. Et un mètre cube de bois, lorsqu'un bosquet produit un mètre cube de bois, pour produire ce mètre cube de bois, il a stocké une tonne de CO2. sans compter effectivement dans les cultures et les cultures pour l'élevage, les légumineuses qui fixent l'azote et réduisent le taux de NO2. Et bon, en dehors de cette compensation des gaz à effet de serre, il y a la contribution des prairies, des haies, à la biodiversité animale, à la dissémination des graines, et même à l'enrichissement de la biodiversité des plantes forestières, des pâtures. Quand on plante en agroforesterie, très rapidement, au bout de quelques mois, on a très vite, au niveau des haies agroforestières, des alignements agroforestiers, un enrichissement à tous les étages, dans le sol, sur le sol, au-dessus du sol, au niveau biodiversité. Deuxième mode de compensation qui se situe au niveau du travail du sol. Et c'est là où la bio est apparue, s'est constituée, en particulier et d'abord, les premiers, par exemple les fondateurs de Nature et Progrès, ils sont partis du sol.
Jérôme Gouste sur les ondes de Radio Albigès pour la conférence sur l'élevage paysan et le dérèglement climatique enregistrée par Radio Albigès à l'occasion de la foire Biocibel 2021 organisée par l'association Nature et Progrès de Tarn. Des conférences à retrouver aussi en podcast en passant par notre site radioalbigès.com. Tout de suite, seconde partie de la conférence avant de retrouver les échanges avec le public. Bonne écoute.
André Beer, dans les années 50, un des fondateurs de Nature et Progrès, son premier livre, ça s'appelait « Un grand problème humain, l'humus ». Et c'est autour de ça, de ces concepts, que s'est bâtie la bio, je dirais notre bio. Et par rapport à ça, c'est vrai que la remise en cause des labours, la remise en cause du travail systématique du sol, le développement des cultures intercalaires, des cultures sur couverture, a considérablement amélioré par rapport à ça. Et c'est sûr que quand on est, par exemple, une plaine ou dans des zones de grande culture où la terre est nue en permanence, non seulement la capacité d'absorption, d'intégration du carbone du NO2 dans le sol est diminuée, mais les sols, et ça a été justement un des éléments constitutifs de la bio, les richesses en carbone, en humus, ont considérablement diminué. Il y a, c'est vrai que, par exemple, au niveau du mouvement d'agroforesterie, il y a souvent des critiques vis-à-vis de la culture bio. Effectivement, il y a des zones où on voit des cultures bio qui se développe tout à fait techniquement correctement par rapport à la bio, mais par rapport au cahier des charges, et qui en même temps, dans des zones où la disparition des haies a frappé, continue à être dans des vastes étendues, sans couverture végétale permanente, et en particulier les haies. Bon, c'est vrai que là, dans les évolutions, il faut savoir que, en 60 ans, 70% du maillage national des haies a disparu. Au début du XXe siècle, la France comptait plus de 2 millions de kilomètres de haies. En 1980, il n'en reste 70% étaient détruites, soit 1 400 000 kilomètres. Il n'en restait que 700 000 kilomètres, certes. Il y a depuis des années, et dans toutes les régions de France, il y a le mouvement des arbres et haies champêtres, dans le Tarn, arbres et paysages du Tarn, qui replantent énormément de haies. Donc là, sur la saison 2020-2021, arbres et paysages a planté 37 km de haies sur le Tarn, donc subventionné. C'est très bien, mais il en reste beaucoup à replanter. Et en même temps, cette régression des haies a été, s'est faite en parallèle avec naturellement le remembrement. Mais même après que le remembrement est largement frappé, puisque le remembrement, c'était plutôt la deuxième moitié du XXe siècle. Il y en a encore, mais ça n'a plus l'ampleur que ça pouvait avoir. La régression des haies s'est faite en même temps que l'augmentation, que la disparition des prairies naturelles, que l'augmentation des terres labourées. Et en particulier pour produire des céréales. Un arbre, c'est 33 kilos de carbone par an. Un arbre en milieu de croissance. Et le rôle des haies, au-delà de ces gaz à effet de serre, on sait que son rôle est important pour stabiliser les sols, éviter l'érosion, pour augmenter la pénétration de l'eau, pour abriter la biodiversité, pour couper les vents, pour ombrer les paysages, ombrer les pâturages, source de bien-être animal. Et donc c'est sûr que, à l'heure actuelle, c'est l'élevage paysan, l'élevage bio et paysan. Effectivement, l'agriculture biologique sur laquelle, en particulier Nature et Progrès a été créée il y a bientôt 60 ans, dans son évolution, malheureusement dans son évolution un peu de petit village gaulois de la bio, doit évoluer vers justement l'union du concept d'agriculture biologique, d'agriculture paysanne et d'agroforesterie pour retrouver une unité par rapport à tout ça. Donc ça, c'est par rapport au bilan écologique de l'élevage. Mais par rapport à ce procès en sorcellerie climatique instruit contre l'élevage, il faut naturellement voir ce qu'il y a en face, c'est-à-dire les consommations alimentaires. Or, là, l'évolution de l'alimentation a littéralement commencé avec la Révolution française et au XIXe siècle par l'industrialisation, par le fait que les révolutions du XVIIIe et du XIXe siècle qui ont fait passer la société d'une dominante écrasante du monde rural et agricole à un monde citadin, industriel, des révolutions politiques, sociales, techniques, démographiques, alimentaires, je dirais psychologiques, le lien au sol n'a pas disparu que chez les producteurs. Bien avant la première disparition du lien au sol, ça a été la disparition du lien au sol de notre société. Avec l'exode rural, le développement industriel, l'urbanisation. Mais prenons l'exemple des mines de Carmaux. Les mines de Carmaux, jusqu'en 1870, jusqu'à la guerre de 70, mais de 1830 à 1870, quand elles se sont vraiment développées, les propriétaires des mines, ils employèrent en majorité des paysans mineurs qui venaient faire des journées à la mine. Et avec l'argent qu'ils gagnaient avec les journées de la mine, on achetait une bête, on achetait un soc de charrue, on avait la dot pour le mariage de la fille, etc. Et puis le développement industriel après la guerre pendant le Second Empire et surtout après la guerre de 70 a fait que les patrons des mines ont exigé que les ouvriers habitent là. Et d'ailleurs, il y a encore la trace, pas tout à fait comme d'origine, mais à Carmaux, la cité des Homs, ou des Homs, je ne sais pas comment ça se prononce, correspondait au moins dans son dessin cadastral à ce que les patrons de la mine avaient fait pour fixer les mineurs sur la mine. Mais peu à peu, après, au XXe siècle, c'était plus la cité des mines, des Homs, c'était des HLM. Donc avec fin de cette rupture du lien au sol. Et dans le même temps, le mode d'alimentation a profondément été bouleversé. Jusqu'à la Révolution française, l'alimentation était essentiellement végétale. Et l'histoire souvent de l'alimentation, en particulier celle écrite par Alexandre Dumas en 1840 et quelques, est une imposture historique totale. Louis XIV, tout le monde s'imagine, un monarque ventripotent, dégoulinant de sauce de gibier. Louis XIV adorait les légumes. Et d'ailleurs, c'est au potager du roi à Versailles qui, marque du temps, est à côté du chapeau, non pas relégué loin. Et Jean-Baptiste de la Quintigny, le maître du potager du roi de Versailles sous Louis XIV, était une des personnes les plus influentes de la cour. Louis XIV adorait les légumes. Et certaines anecdotes, genre par exemple, une suivante de la reine, il jetait des boulettes de pain à la figure des suivantes de la reine. Et un jour, la suivante de la reine a pris un saladier qu'elle a renversé sur la perruque du roi, où Madame de Menton, épouse morganatique de Louis XIV, qui lui supprimait les petits pois parce que c'était réputé aphrodisiaque, c'était pour qu'il lutine un peu moins ses suivantes. Donc l'alimentation, même de l'aristocratie jusqu'à la Révolution, était quand même la dominante végétale. Et on est passé, au fil du 19e siècle et du début du 20e siècle, d'une alimentation où 75% de l'apport protéique était assuré par des végétaux, à une alimentation inverse, où 75% des protéines sont d'origine animale, où les glucides raffinés ont remplacé les glucides complets, les sucres, le sel, etc. Donc, l'alimentation n'était pas végétarienne, encore moins végane, naturellement, mais elle était à dominante végétale. Et c'est sûr que l'augmentation mondiale de la consommation des produits animaux pour s'aligner sur le mode d'alimentation de ce qu'était le mode d'alimentation des classes dominantes au 19e siècle, parce que cette révolution alimentaire a été le triomphe de la bourgeoisie après la Révolution française, où effectivement l'alimentation était un marqueur social. Manger des viandes, les épices, tout un tas de produits qu'on marquait le triomphe de la bourgeoisie et qu'on a transformé en alimentation traditionnelle. Tous les plats d'alimentation traditionnelle, le couscous, la paella, la choucroute, le cassoulet, à l'heure actuelle n'ont pas plus de 120, 130 ans, peut-être 150 ans d'âge. Le cassoulet, c'était la fajounade. Fajounade, c'était un ragoût de faillot. On mettait un peu de gras, un peu de lard, plus tard un peu de saucisse quand on tuait le cochon. Le confit de canard, quand j'étais gamin, j'en ai jamais vu dans du cassoulet. Mais c'est pas que je suis contre, ne vous arrêtez pas abusivement. La choucroute, quand j'étais gamin, il y avait la choucroute et la choucroute garnie. La paella, c'était du riz séfrané. Et jamais, il y a 60 ans, vous n'auriez fait bouffer un bourgeois madrilène des langoustines, ces espèces d'infâmes bestioles qui rampaient dans la vase. Le couscous, le couscous, comme son nom l'indique, c'était du couscous, avec des légumes. Et voilà. Donc, cette augmentation mondiale de la consommation des produits animaux, ça, effectivement, elle est absolument insoutenable pour la planète. Et avant d'avoir la peau de la planète, je pense qu'elle aura d'abord la nôtre, par une malbouffe et une malnutrition généralisée. Mais cela étant dit, c'est pas parce que il faut manger moins de viande, un vieux slogan écolo qui a déjà quelques décennies, c'est quand même consommer moins pour consommer mieux. On reste dans cette logique. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose comme alimentation en suppression de l'élevage? Pour moi, le véganisme est un raisonnement hors sol, comme la ferme des 1000 vaches. Parce que tout aussi hors sol que l'élevage industriel, il est complètement coupé de toute prise en compte du monde dans lequel on vit, des écosystèmes, de leur équilibre, de la ruralité, des chaînes alimentaires qui maintiennent les équilibres écologiques sur notre planète, au moins depuis les 10 000 ans d'invention de l'agriculture, et même avant, parce que avant d'être un agriculteur, d'un train éleveur cultivateur, l'homme a déjà été pendant quelques millions d'années un chasseur-cueilleur. Chasseur-cueilleur, c'est-à-dire que dans l'immense majorité de la surface de la Terre, c'est effectivement une alimentation végétale et animale qui prévalait. Et le véganisme pousse le bouchon jusqu'à condamner toute utilisation du monde de produits animaux, y compris dans les vêtements, préférant avoir à des vêtements, des chaussures ou que sais-je, issus de la chimie de synthèse, plutôt qu'issus de l'élevage, qu'il s'agisse de la laine, de la peau ou du cuir. Et là, ça tombe bien, il y a 8 jours, je lis un article. Je vais vous apprendre une nouvelle qui va vous réjouir. Savez-vous que depuis quelques semaines en France, dans la plupart des Monoprix et des Carrefour Express, vous pouvez acheter de la viande végétale de synthèse, produite par une firme qui s'appelle Les Nouveaux Fermiers. Donc Les Nouveaux Fermiers est une firme dont un des actionnaires principaux est M. Xavier Niel, propriétaire, copropriétaire du Monde, propriétaire de Free, et qui a donné lieu quand même à un événement qui sort de l'ordinaire dans notre monde agricole, c'est-à-dire que la FNSEA et la Confédération Paysanne ont uni leurs forces. Vous avez entendu, hein ? Ont uni leurs forces pour porter plainte conjointement pour l'interdiction de l'utilisation du mot « viande » et l'interdiction du mot « fermier ». Quant au process industriel, malheureusement, la législation ne permet pas de porter plainte. Donc, voilà. Vous avez aussi, il y avait un reportage d'envoyé spécial pendant le premier confinement sur la viande de synthèse. Et aux États-Unis, peut-être que même depuis donc le premier confinement, maintenant ça fait plus d'un an, mais bon monsieur, mes bonnes dames, il se disait que prochainement aux États-Unis, donc prochainement c'est peut-être le cas maintenant, on allait pouvoir acheter tout ce qu'il fallait, naturellement dans des conditionnements tout à fait hygiéniques, etc., pour fabriquer soi-même son hamburger végétal de synthèse avec son imprimante 3D. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, tout le monde achète une imprimante 3D. Voilà. Et il y avait aussi un reportage sur la viande de synthèse à partir de cultures de cellules musculaires. Là, par contre, il va falloir être un peu patient parce que les coûts de fabrication sont encore un peu trop élevés. Mais un peu de patience, ça va arriver. Donc voilà, toutes ces cultures industrielles, ce mode de pensée hors sol, qui rejoint un certain nombre d'éléments de mode de pensée actuel sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle, l'augmenté, voilà. Donc tout ça, la véganisme, pour moi, tout ça, ça procède d'un même mode de raisonnement auquel malheureusement des gens qui n'ont plus beaucoup de connexion avec le monde naturel rural se laissent piéger. Au titre de la maltraitance animale, la maltraitance animale est une réalité. Malheureusement, beaucoup d'élevages bio sont obligés, du fait de la disparition de la grande majorité des abattoirs, de passer vers des abattoirs sans aucun mode de contrôle. Une des solutions, c'est peut-être ce que font cette revendication qu'il y a de rapprocher ce qu'on appelle l'abattoir, improprement l'abattoir à la ferme. C'est que, en septembre, j'ai fait un reportage dans le nord de la Creuse, dans une région qui est tellement en train de se désertifier que l'éleveur chez qui j'étais se voit supplier par ses voisins de mettre ses vaches sur leur terre pour qu'elles ne retournent pas à la friche. C'est des terres qui sont plus vendables, qui ne trouvent plus personne pour louer. Et lui, donc, il assume une fonction de limitation du retour à la friche, mais il fait toute sa viande, c'est de la vache bretonne, pinoire, race ancienne, il transforme tout en vente directe, sauf qu'il doit faire 150 km pour amener ses bêtes à l'abattoir. Donc là, c'est pas, alors qu'il y aurait de quoi faire en semi-itinérance un abattage de proximité, dans des conditions de bien meilleures, bien traitantes des animaux. Et faire des vidéos sur des élevages, oui, pour réclamer de meilleures conditions. Accuser tous les éleveurs de pratiquer la maltraitance animale quand on sait le lien affectif qu'un éleveur paysan peut avoir avec son troupeau, c'est absolument insoutenable et insupportable. Hein. Et donc, je dirais que revenir à la réalité des faits, défendre, j'espère que ce que j'aurais insinué dans vos neurones vous donnera quelques arguments. D'abord, pour avoir une consommation de viande digne de nous, hein, et puis pour défendre les éleveurs, parce qu'il faut bien savoir que les premières victimes de ces campagnes contre l'élevage, ce sont d'abord bien souvent des éleveurs paysans. Des éleveurs comme ceux qui sont présents aujourd'hui sur Biocibel et qui ont perdu des clients, je dirais, victimes de cette intoxication anti-élevage, hein, et qui ont dit « Ah ben non, je respecte les animaux, donc je ne mange plus de viande. Hein. » Dire que, voilà, donc comment je conclurai, et puis je conclurai avec un truc que j'ai dit tout à fait au début. Hein. Quand j'étais en classe de 4e, je ne vous dis pas en quelle année, hein, il y avait eu une rédaction « Pourquoi l'air est pur à la campagne ?» Et ce n'est pas moi, mais il y a quelqu'un dans la classe, et ça avait fait rigoler toute la classe, qui d'ailleurs avait été puni parce qu'il avait dit « L'air est pur à la campagne à cause des bouses de vaches ». C'était quand même une anticipation écologique de grande envergure, hein, et que j'invite chacun à retenir, hein, et que la qualité de nos campagnes, qu'est-ce qu'elle serait s'il n'y avait pas d'élevage, hein, qu'est-ce qui en ferait quelque chose que, au stade de mode de vie qu'on a, comment vivrait-on sans ces campagnes entretenues, sans ces campagnes vivantes? Vous avez des régions, par exemple dans les Pyrénées, plus particulièrement dans les Pyrénées côté espagnol, parce que côté français, en Haute-Ariège et tout, il y a eu un mouvement néo-rural qui a quand même, à partir des années 70, largement contribué à maintenir de l'élevage. Mais côté espagnol, vous avez des vallées entières où il n'y a plus d'élevage. Je pense par exemple au Val d'Aran, je ne sais pas si vous connaissez. Val d'Aran, il n'y a plus d'élevage. Il y a peut-être un dans toute la vallée. Et par contre, quand on se promène, eh ben, il y a des tas d'anciennes pâtures qui sont totalement retournées à l'état sauvage. C'est un scandale, on ne peut plus se promener. C'est un scandale. Voilà donc cette conclusion. Bon appétit.
Jérôme Gouste sur les ondes de Radio Albigès pour une conférence sur l'élevage paysan et le dérèglement climatique, enregistrée par Radio Albigès à l'occasion de la foire Biocibel 2021, une foire organisée par l'association Nature et Progrès Tarn. Une conférence à retrouver ainsi que d'autres en podcast en passant par notre site radioalbigès.com. Tout de suite, troisième et dernière partie de la conférence avec l'échange, le jeu de questions-réponses entre le conférencier et le public.
Oui, j'ai vu un reportage sur des abattoirs mobiles.
Attends, ne te mets pas devant lui parce que je vois la parole. Oui. Attends.
Oui, je disais, j'ai vu un reportage, un petit reportage, qui parlait d'une expérience d'abattoir mobile.
Oui.
Qui allait être faire en ferme. Mmh. Alors, quels sont les handicaps techniques? Est-ce que c'est, encouragé par l'administration, etc.?
Bon. Les encouragements de l'administration sont souvent assez durs en la matière comme en beaucoup d'autres matières à obtenir. Eh ben, c'est ce qu'on appelle improprement l'abattage à la ferme, c'est-à-dire maintenant est assez courant en Europe du Nord, qui en France est semi-illégal. Je ne sais pas exactement où ça en est, mais en particulier un certain nombre d'éleveurs, en particulier en bio, mais paysans qui essayent de le faire passer, si tu veux. Alors là, ça rejoint tout un problème à l'heure actuelle de réglementation sanitaire. Donc c'est vrai que l'abattage est extrêmement réglementé au niveau sanitaire, c'est bien, hein, mais Du coup, un abattage mobile comme ça exige la présence d'une inspection vétérinaire avec un certain nombre de processus, de procédures. C'est d'autant... Il y a quand même des choses que... Est-ce que je l'ai dit dans un micro ou pas ? J'en sais rien. Je ne suis pas convaincu que dans les abattoirs industriels, les contrôles vétérinaires soient aussi pointilleux. Là, je dis pointilleux, je mets des points de suspension après. Par contre, c'est vrai que c'est un des problèmes... de toute façon, la réglementation n'est pas... Il faut bien voir aussi que... je ne me souviens plus, mais combien il y avait d'abattoirs il y a 40 ans dans le Tarn ? Il y avait au moins plus d'une dizaine, je crois qu'il en reste deux. Mis à part pour les volailles ou des abattoirs à la ferme, enfin un abattage à la ferme dans des conditions rigoureuses peut être, je crois, fait. Tout le reste a disparu, d'où ces kilomètres que les éleveurs doivent faire. J'avais fait une formation dans un élevage dans les Corbières. Il fallait qu'elles viennent dans le Tarn faire abattre ces bêtes. Donc c'était à 40 km après Carcassonne. Ça c'est sûr, mais d'ailleurs, on peut mettre en parallèle avec un autre problème alimentaire à l'heure actuelle. On passe beaucoup de la restauration collective, d'une évolution de la restauration collective vers une alimentation locale, etc. Un des problèmes majeurs je vous invite à aller au stand de terre citoyenne à Bigeoise, dans ce projet de réinstaller des maraîchers dans la plaine de l'Escure, dans la plaine traditionnelle maraîchère de l'Escure, c'est que, par exemple, des cuisiniers d'EHPAD me disant, moi, j'achète plus de légumes parce que j'achète que des produits avec un code barre. Pour la bonne raison que si j'achète un cajot de laitue, il va falloir que je tienne sur un registre d'origine, etc. Je passe plus de temps, si j'achète des produits frais en direct, je passe plus de temps à remplir mes registres qu'à les cuisiner. Enfin bon, j'exagère à peine. Et donc c'est vrai que, au nom d'un certain sécuritarisme alimentaire, on exclut des productions qui ne sont pas à un certain niveau, je dirais, d'échelle critique.
Juste pour préciser, il n'y a pas nécessité d'avoir une présence d'un vétérinaire lors de l'abattage à la ferme. C'est le tueur de l'abattoir qui est délégué pour tuer. Et il y a une heure ou une heure et demie, selon les départements, pour aller à l'abattoir le plus proche. Et donc là, les services vétérinaires sont présents ou pas, comme vous dites. Mais il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas d'obligation d'avoir un vétérinaire à la ferme, sur le lieu d'abattage.
Il faut que le vétérinaire passe après ou... Non, pas.
Non.
Ah bon.
Le vétérinaire reste à l'abattoir parce que la bête est tuée à la ferme, dans un caisson, on appelle ça, et ensuite elle est emmenée à l'abattoir, le plus proche.
Et je crois mais il faut qu'elle passe par l'abattoir.
L'abattoir se déplace à la ferme. Officiellement, c'est ça. En fait, il n'y a pas de... L'abattoir se déplace, c'est une délégation sur place.
D'accord.
Ça, c'est officiel. Et donc après, les vétérinaires sont soit présents ou pas, comme vous dites, ou tatillons ou pas, dans les abattoirs.
D'accord.
Ça, c'est plus le problème des éleveurs après. Quoi. Ah, c'est plus leur problème. Si la bête, il y a un problème, ils vont le signaler. Voilà. Mais simplement, il n'y a pas de nécessité d'avoir deux ou trois personnes pour voir effectivement comment la bête est abattue. Le tueur vient. Et voilà. Quoi. Après, il faut avoir le manitou ou un chargeur avec un tracteur pour déposer la bête dans le caisson. Après, la bête est emmenée. Voilà. Ça coûte un peu plus cher que l'abattoir. On va dire la façon classique d'emmener les bêtes à l'abattoir, mais voilà. Mais c'est pas insurmontable du tout comme...
Faut voir aussi que la concentration des abattoirs s'est fait naturellement au profit d'un certain nombre de firmes qui contrôlent maintenant la majorité des abattoirs en France.
Il y a quasi très peu d'abattoirs publics dans les cantons avant. Pourquoi tous les cantons, les gros cantons avaient des abattoirs publics. Maintenant, ça a disparu et on a que des gros, sans doute. Ça doit être le même problème partout sur le territoire, je pense.
Oh, merci pour ces précisions.
Du coup, ça amène certains questionnements. Quelle suite, j'ai envie de dire, quand je pense à, on va être très macro, des grandes entreprises qui sont toujours de plus en plus grandes, qui profitent des crises pour racheter. on peut prendre l'exemple des abattoirs, comme vous disiez. J'imagine que c'est à peu près le process de la sorte. Hein. On peut parler de... Après, on ne va pas aller dans les énergies, mais il y en a plein qu'on connaît très bien, un très gros, qui aujourd'hui se verdit, dira-t-on. Quelle est la suite derrière ? Vous disiez, par exemple, la restauration rapide, bah, il est embêté, il prend un code-barre. C'est peut-être un peu fou d'en parler là, mais admettons, on peut parler de la traçabilité, mais faciliter la traçabilité. Aujourd'hui, des grandes entreprises dans le luxe travaillent sur le fait de ne pas avoir de contrefaçon et de prouver lors de l'achat qu'on peut avoir la traçabilité complète. Est-ce qu'on ne peut pas réussir à trouver un moyen de créer une traçabilité du producteur local dans un cadre paysan, comme vous l'avez développé, vers un consommateur qui peut se trouver à Paris, Marseille, dans ces grandes agglomérations qui aujourd'hui en fait consomment quand même la grande partie
de la population.
Et ouais, voilà, oui, voilà, concentre la grande partie de la population.
La traçabilité, très schématiquement, presque caricaturalement, il y a deux manières de la concevoir. Il y a la traçabilité dans laquelle la société post-industrielle nous inscrit, c'est-à-dire une traçabilité dématérialisée, numérisée. C'est sûr qu'elle, elle n'est naturellement concevable et elle n'est naturellement conçue que pour des procédés et des processus strictement industriels. Donc c'est sûr que là, le consommateur, le citoyen, rentre uniquement dans une traçabilité et une visibilité d'étiquetage des emballages. Hein, étiquetage qui, de toute façon, à l'heure actuelle, est quasiment dans le mensonge permanent par omission. Comme on le disait quand j'allais me confesser. Et il y a une autre traçabilité qui malheureusement est de plus en plus éloignée, en particulier des citadins, qui est la traçabilité de lieux, de mouvements qui peuvent se traduire en ville, par les groupements de consommateurs, les AMAP, etc., restent effectivement un problème social, d'accessibilité financière, de cette accessibilité-là. Malheureusement, ce que je veux dire, c'est que bio-bobo. Mais bio-bobo, ça recouvre quoi ? Bio-bobo, ça recouvre qu'effectivement, même avec les quelques piécettes de subventions auxquelles peuvent accéder les paysans biologiques et encore dans des conditions de délai d'attente, etc., ça ne compense que très partiellement le coût non facturé de l'agriculture industrielle et de l'industrialisation. Donc par rapport à ça, de toute façon, nous, comme j'ai dit, que Nature et Progrès existent encore, c'est une anomalie génétique dans le monde dans lequel on vit. C'est moi qui, j'en ai vécu que 50 ans sur 60. Mais on est toujours le petit village gaulois. Notre plus grande fierté sur cette foire Biocibel, c'est que c'est un événement populaire. Là, le public, bon, il y a les fidèles, etc. Et c'est d'abord n'importe qui. N'importe qui, non pas au sens péjoratif, mais n'importe qui, au contraire, ça c'est notre fierté. Cela étant dit, nous on chemine au niveau, à la vitesse où on est. Bon, j'ai passé une heure avec les officiels tout à l'heure pour pouvoir monter d'autres projets. Donc vous avez Nature et Progrès, vous avez Terre Citoyenne pour faciliter l'accès aux fonciers. Vous avez Terre de Liens qui est aussi, je crois, un stand. Donc voilà ce qu'on peut faire. Le reste, on déplore de ne pas pouvoir le faire. Mais on essaye de faire ce qui est à notre portée. Et qui plus est, en plus, par rapport à Bio-Bobo. Bio-Bobo, ça renvoie effectivement à tout ce que j'ai dit sur l'évolution de l'alimentation. C'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, on est arrivé, je dirais en particulier dans les classes populaires, au fait, moi, ce qui m'a fait venir à l'agriculture biologique, c'est les paysans dans la lutte des classes. Et c'est effectivement que c'est quelle alimentation ? Et c'est vrai que le conditionnement à l'alimentation industrielle, à l'alimentation transformée, fait que de toute façon, pour l'immense majorité de nos concitoyens, se nourrir correctement, c'est-à-dire suivant les canons et les critères de la société dans laquelle nous vivons, ça passe par Leclerc. Ça passe de plus en plus par Amazon, qui, au gré du confinement, a multiplié son chiffre d'affaires alimentaire, enfin de produits alimentaires, par l'ubérisation de l'agriculture. Donc là, avec nos petites rames, voilà. Et c'est à chacun aussi de... moi, ce que j'aimerais monter, un projet de grand jardin solidaire, enfin, j'en discute en ce moment avec le Secours Populaire, pour aussi produire, mais aussi pour d'éducation alimentaire. Oh, c'est chouette, on a encore tellement de choses à faire.
Moi, je voulais juste te dire de faire attention à ne pas trop mettre des catégories dans les gens. Enfin, de la même manière qu'il ne faut pas mettre tous les éleveurs dans la même case, quand vous parlez des véganes ou des végétariens, il y a aussi des véganes qui sont contre l'élevage industriel, juste l'élevage industriel, mais qui sont pour des élevages paysans. Donc du coup, moi je pense qu'il ne faut pas mettre trop les gens dans les catégories, parce que surtout il y a des luttes qui sont urgentes sur lesquelles on pourrait se retrouver, notamment, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais la biosécurité là, qui est en train de nous tomber dessus et qui va faire qu'on va tomber que sur des gros élevages, on va être obligé de tout mettre aux normes et d'avoir des porcs enfermés ou tous les animaux enfermés. Et après, vous en avez parlé, mais l'abattage à la ferme. Moi, aujourd'hui, si je mange pas de viande, c'est parce que les animaux, ils sont tués d'une manière horrible, quoi, à tous les points de vue environnemental. Donc du coup, on peut vraiment se retrouver sur des luttes. Et du coup, j'entends trop souvent parler des véganes et des éleveurs, quoi. Donc il faut faire un peu attention.
Alors, je m'excuse, effectivement, j'ai commis une erreur. J'aurais pas dû dire les véganes, mais le véganisme. C'est le véganisme en tant qu'idéologie. Cela étant dit, vous parlez de sécurité et de sécuritarisme. D'ici la fin de 8 jours, il faut que je rédige l'éditorial de la prochaine revue Nature et Progrès sur la loi de sécurité globale, et où je parlerai de notre sécurité globale à nous face au sécuritarisme qu'on nous impose, et qui effectivement, ce sont des normes inhumaines, et que notre sécurité globale à nous... Alors je ne vais pas tout vous dire parce que je ne l'ai pas encore rédigé, ça fait 44 heures que je sais qu'il faut que je le rédige, mais notre sécurité, c'est une sécurité à taille humaine, une sécurité qui inclut nous, qui inclut les animaux, qui inclut les végétaux, qui inclut la terre, et comme le slogan de Nature et Progrès, pour notre santé et celle de la terre, voilà, et entre eux. Notre santé est celle de la Terre, il y a celle de tous les êtres vivants. Et de toute façon, ce que je veux dire, c'est extrêmement grave. Enfin, j'ai participé à des marches pour le climat où il y avait quand même des attaques extrêmement violentes contre l'élevage en général. Et que malheureusement, pour des citadins qui... je leur en veux pas, parce que c'est pas leur faute s'ils sont déconnectés du monde rural, c'est extrêmement grave qu'à ce point-là, on ne fasse pas la différence. Et je connais des éleveurs qui étaient des éleveurs paysans qui pratiquaient la vente en circuit court, etc., qui ont vu leur élevage et non pas leur exploitation, donc leur ferme et non pas leur exploitation, mise en péril par des gens qui s'étaient dit « faut plus que je mange de viande ». Et ça, si ce mouvement-là, sous cette forme, que quelqu'un avait pu manger de viande. J'ai été végétarien à une époque, j'ai été macrobiote, je respecte tout à fait ça. Ce que je refuse et ce que j'attaque, c'est le fait d'attaquer l'élevage en général, ce qui est un besoin écologique vital pour notre planète. On est d'accord, finalement ? Oui, oui. Mais j'ai personnellement... c'était à Alternativa à Montpellier, c'était il y a 3 ou 4 ans, j'en ai pris plein la gueule. Mais bon, je suis toujours vivant. Et je suis toujours totalement vivant. Et donc, ce n'est, comme on disait, les vieux de notre âge, ce n'est qu'un début, le combat continue. Et même quand on aura disparu, ce sera toujours un début. Heureusement, voilà. Merci.
Toujours branché sur les ondes de Radio Albigès, vous venez d'écouter la conférence de Jérôme Gouste sur l'élevage paysan et le dérèglement climatique. Une conférence enregistrée par Radio Albigès à l'occasion de la foire Biocibel 2021, organisée par l'association Nature et Progrès Tarn. N'hésitez pas, vous pouvez retrouver cette conférence et bien d'autres en podcast en passant par notre site radioalbigès.com. N'hésitez pas à réagir à cette émission en nous envoyant un mail à radioalbigès.com ou bien en laissant un message après le bip sur notre boîte vocale, la boîte locale de Radio Albigès, en vous souhaitant une bonne écoute de la suite de notre programmation. Al plaisir, brave monde.